Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. À la veille du lancement du grand débat national, toujours beaucoup d'incertitudes, mais Emmanuel Macron veut se montrer à l'écoute des Français. Il vient de rencontrer des maires ruraux venus lui faire entendre les doléances de leurs administrés. Après le décès inexpliqué d'une patiente aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris, l'enquête interne pointe une série de dysfonctionnements dans un contexte de manque de moyens. Nous ferons le point avec Tara Schlegel. Donald Trump menace Ankara de destruction économique. La Turquie répond qu'elle n'est pas intimidée. Des tensions qui font suite à l'annonce par le président américain du retrait des États-Unis de Syrie. Theresa May tente toujours de convaincre les députés britanniques de valider l'accord de Brexit. L'Union européenne veut lui donner un coup de pouce avec un courrier signé par le président de la Commission européenne. Pas forcément un cadeau, nous dira Quentin Dickinson. Le grand débat national s'ouvre donc demain. On n'en connaît pas encore les modalités qui doivent être précisées par le Premier ministre, Édouard Philippe. Il ne s'agit ni d'une élection ni d'un référendum, a prévenu Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français. Le président lancera le débat depuis une petite commune de l'Eure, Grand-Bourg-Terould. Entouré de maires et d'élus, le chef de l'État devrait surtout écouter, un exercice qu'il compte rééditer souvent avec de nombreux déplacements dans les deux mois à venir. Et il s'est placé dans cette posture d'écoute dès cet après-midi. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir.
Le président a reçu les représentants de l'Association des maires ruraux de France, venus lui remettre le fruit de ce qu'ils avaient organisé depuis début décembre, des cahiers de doléances mis en place dans les mairies qui ont permis une première remontée des attentes des Français.
Oui, ils étaient une dizaine de maires dans la délégation reçue cet après-midi par Emmanuel Macron, tous avec leurs cahiers à spirale sous le bras, des cahiers sur lesquels leurs concitoyens ont écrit ces dernières semaines leurs difficultés et leurs attentes. Le maire de Méricourt dans les Yvelines, par exemple, Philippe Gesselan, nous en livre un bref aperçu.
Nos habitants réclament pas spécialement des hausses de salaire, mais ils voudraient qu'on leur tape un peu moins dessus pour qu'il leur reste un peu plus à la fin du mois. Nos habitants ont des budgets de transport qui sont énormes, puisqu'on ne peut pas se passer de voiture chez nous. Donc c'est minimum 2 voitures par foyer. Et quand on travaille, c'est entre 2 et 4 heures de transport par jour, avec donc un budget carburant, un budget voiture qui est très très conséquent. J'ai eu parmi les gens qui sont venus un jeune qui est venu m'expliquer qu'il partait de Méricourt pour aller travailler en Seine-et-Marne tous les jours et qu'il lui arrivait parfois de se mettre en maladie la 3e semaine du mois parce qu'il n'avait plus les moyens de mettre de l'essence dans sa voiture.
C'est donc un premier aperçu des difficultés rencontrées par les Français qu'ont livré ses maires au chef de l'État cet après-midi. Quant au grand débat qu'Emmanuel Macron souhaite organiser, ils lui ont fait savoir qu'ils étaient prêts à participer, mais sur la base de la bonne volonté de chacun. Vannick Berbarian est le président de l'Association des maires ruraux de France.
Les maires seront très libres. Si certains veulent l'organiser, ils l'organiseront. Si certains veulent le faciliter, ils pourront le faire. S'ils veulent l'animer, ils pourront le faire. S'ils ne veulent rien faire, ils pourront ne rien faire.
Et ils ont également alerté le président sur le fait qu'il faudra une traduction politique à toutes les propositions qui auront été exprimées.
On lui a dit très clairement, si le sujet c'est de nous ressortir la phrase « je vous ai compris, mais on va continuer comme avant », évidemment c'est un gros risque. Si le compte-rendu de ces débats est dense, avec des propositions, avec une argumentation, avec un certain contenu, je vois mal le gouvernement faire comme s'il ne s'était rien passé. Ce serait une erreur grave.
Les maires ruraux attendent désormais de savoir comment tout ça va s'organiser avec, disent-ils, de l'espoir, mais aussi une certaine inquiétude.
Stéphane Robert, le grand débat national doit permettre d'aborder les questions liées au pouvoir d'achat, à la fiscalité, à la démocratie et à l'environnement. Mais qu'en sortira-t-il vraiment ? Alexandre Delegue, professeur d'économie à l'université de Lille 2, auteur du blog Éconoclaste et sceptique. En termes économiques, selon lui, le débat est biaisé parce qu'il propose de discuter dans un cadre déjà très contraint.
Il n'y a aucun moment on évoque une contrainte économique qui s'impose pour l'instant et qui n'est jamais discutée ou contestée, qui est la contrainte européenne. C'est-à-dire qu'en termes de finances publiques, la principale contrainte qui pèse sur les finances publiques françaises, c'est la contrainte européenne, les différents traités et les évolutions des traités qui sont intervenus depuis la crise financière, qui limitent très très strictement la capacité française d'avoir des déficits publics. Dès lors que cette contrainte-là n'est pas présentée et qu'on la considère comme positive ou négative, elle n'est pas du tout discutée, elle n'est pas du tout dans le champ de la discussion, l'Europe n'apparaît absolument pas. D'un certain point de vue, ça souligne un état d'esprit, que les dépenses publiques en France ne peuvent aller que dans une seule direction, c'est-à-dire vers le bas. Il faut normaliser la situation française, et on retrouve un peu cette idée ici de ce qui est normal. On a l'impression que même si aucun sujet n'est vraiment exclu, la norme pour la France, c'est qu'il va falloir baisser la dépense publique. Et il y a plein de choses qui ne sont jamais présentées. Il y a la question européenne, d'un côté. Il y a un autre terme qui est totalement absent, qui est la question de la croissance économique. Parce que lorsqu'on dit « il est impossible d'augmenter les dépenses publiques et de baisser les impôts », formellement, c'est faux. Dans une économie qui connaît une croissance économique forte, il est tout à fait possible d'avoir des dépenses publiques qui augmentent et des taux d'imposition dans le même temps qui diminuent. Et cette question-là d'augmenter la productivité, d'avoir un peu plus de croissance, elle est totalement absente et elle est absente du débat public et de cette discussion.
Le professeur d'économie Alexandre Delegue, joint par Anne-Laure Chouin et pour bon nombre de Gilets jaunes, c'est dans la rue qu'a lieu le vrai débat. Depuis bientôt 2 mois et demi, nos voisins, proches ou lointains, observent ce mouvement des Gilets jaunes, s'interrogent et commentent cette actualité bien française. L'image de la France et singulièrement celle de son président sont évidemment impactées par le mouvement et par les affrontements qui se déroulent chaque samedi devant les caméras du monde entier, Louise Baudet.
Oui, le saccage de l'Arc de Triomphe, les émeutes sur la plus belle avenue du monde, la ville lumière obscurcie par les gaz lacrymogènes.
Yet several thousand yellow vest protesters braved the bitter cold to return to the Champs-Élysées.
Brennende Barrikaden auf den Straßen von Paris. Der Protest der Gilets jaunes, zu Deutsch gelbe Warnwesten.
Giornata di guerriglia a Parigi tra polizia e gilet gialli.
La protesta per protestaron por el alza en el precio de los combustibles.
Son et lumière mondialisée et réaction mi-stupéfaite, mi-sarcastique. La France, vous savez, ce pays où la rue gagne toujours, où les gens ne travaillent pas assez et perçoivent trop d'aides sociales, cliché d'une France bloqué, impossible à réformer. Particulièrement ternie aussi, l'image du président français, sa capacité réformatrice, son dynamisme, salué au premier temps de son mandat, tout cela perd de son éclat. Aujourd'hui, on souligne sa faible popularité, son incapacité à mettre un terme au mouvement, voire sa tentation sécuritaire.
Et l'occasion pour certains pays de régler son compte à Emmanuel Macron.
Oui, la Russie, la Turquie appellent à la retenue contre les manifestants, un comble. Ces régimes autoritaires en profitent pour vanter leur stabilité face à des démocraties jugées fragiles. Aux États-Unis, Donald Trump voit dans les mouvements des Gilets jaunes la preuve qu'il a eu raison de sortir de l'accord sur le climat et va jusqu'à relayer l'idée que dans les manifestations, on scande son nom. Autre meilleur ennemi d'Emmanuel Macron, le leader d'extrême droite en Italie, Matteo Salvini, qui la semaine dernière apporte son soutien aux Gilets jaunes. Ingérence caractérisée, répond le gouvernement français.
J'apporte tout le soutien possible aux Français qui, de façon bien élevée et respectueuse, disent à leur président qu'ils ne pensent pas à l'intérêt du peuple français, que plus vite il rentre chez lui et mieux c'est.
La priorité du gouvernement italien, c'est de s'occuper du bien-être du peuple italien. Je ne suis pas sûre que de s'intéresser aux gilets jaunes a quoi que ce soit à voir avec le bien-être du peuple italien.
Voilà la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, qui répondait à Matteo Salvini depuis Bruxelles. Bruxelles, où les alliés du président français observent un silence gêné, tout comme en Allemagne, où l'on s'inquiète du dérapage budgétaire annoncé en France, un plan à 10 milliards d'euros qu'il va falloir financer en s'affranchissant peut-être du pacte de stabilité.
Et l'image de la France qui se dégrade, ça n'est pas de bon augure pour le président français à moins de 5 mois des européennes, Louise.
Oui, Emmanuel Macron qui ambitionnait d'incarner le leadership européen, qui rêvait de dynamiter le jeu politique traditionnel en le reconfigurant autour du clivage progressiste contre nationaliste. Emmanuel Macron se retrouve affaibli et se concentre maintenant sur la défense de sa politique. Oui, la France va continuer à réformer, tente de convaincre son Premier ministre en tournée en Allemagne la semaine dernière.
Est-ce que ces mesures suscitent l'enthousiasme ? Pas complètement. Mais j'ai le souvenir de l'entretien que j'ai eu avec Mme Merkel et avec le président Steinmeier en septembre 2017. Ils m'ont dit, si vous voulez faire des réformes, il faut les faire tôt, il faut les faire vite et il faut les faire loin. Et ils m'ont dit ensuite que ça n'était pas quand on les faisait que c'était difficile. Que c'était 18 mois après avoir commencé que c'était difficile. Et il n'avait pas tort.
Édouard Philippe à Bonn, jeudi dernier. Objectif rassurer les partenaires européens, mais aussi les milieux d'affaires. Emmanuel Macron lui-même donnera de sa personne le 21 janvier prochain. Sommet de l'attractivité de la France devant le Gotha mondial du business, sous les ors du château de Versailles, loin, très loin de la France des gilets jaunes et des ronds-points.
Merci Louise Baudet. La ministre des Armées annonce le lancement d'un nouveau programme de Rafale. Depuis Mérignac, en Gironde, où elle visitait des installations de Dassault Aviation, Florence Parly a confirmé confirmé un contrat de près de 2 milliards d'euros avec le constructeur aéronautique pour doter les forces aériennes françaises de Rafale 4, des avions de chasse sur lesquels la détection et la lutte contre les menaces seront améliorées, indique la ministre. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie Kiefer.
Il était vraiment nécessaire de moderniser le Rafale ?
Oui, concrètement, cette nouvelle version du Rafale, dite F4, sera exploitée à partir de 2023. Elle bénéficiera des dernières technologies, comme l'emport de nouveaux missiles, avec également une amélioration de la détection et de la lutte contre les menaces, notamment avec de nouveaux systèmes de radar et le système anti-brouillage, développé par Thales, l'un des principaux équipementiers du Rafale. Des évolutions primordiales pour cet appareil sorti il y a déjà plus de 30 ans, selon Jean Guinel, expert défense au point.
Il est évident que les technologies qui seront en œuvre en 2025 ou 2040, c'est pas celles qui étaient en œuvre en 1980. Donc, c'est quelque chose qui a été conçu comme ça dès le départ. Le deuxième élément qui est tout à fait essentiel aussi, c'est que les clients de l'industrie française d'armement demandent deux choses, demandent les appareils les plus modernes possibles, et ils demandent également que l'armement qu'ils achètent, ils demandent qu'il soit en service dans l'armée française. C'est-à-dire, vous pouvez quasiment pas vendre du matériel qui ne serait pas en service dans l'armée française.
Cette nouvelle version est également bonne pour l'emploi. Elle permettra peut-être de décrocher de nouveaux contrats à l'export au-delà de l'Inde, mais aussi de l'Égypte et du Qatar. Éric Trappier au micro de nos collègues de France Bleu Gironde.
Ce standard F4, ça permet aux équipes, d'une manière générale, de continuer le développement. On a livré le standard F3R en 2018. Nous poursuivons avec ces équipes, nous renforçons ces équipes. Ça veut dire qu'on a effectivement des besoins en termes d'emploi, en termes d'embaucher des jeunes. Donc ça va donner l'occasion aussi aux jeunes de participer à un grand challenge.
Éric Trappier, le PDG de Dassault. Au total, ce sont 2500 à 5000 emplois directs qui seront maintenus grâce au nouveau Rafale F4.
Hakim Kasmi, le 17 décembre dernier, une femme de 55 ans a été retrouvée morte aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris. Elle avait été admise presque 12 heures plus tôt et n'avait pas vu de médecin. Selon un rapport commandé par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, il y a eu une série de dysfonctionnements dans la prise en charge de cette patiente. Mais l'enquête souligne également le contexte, Tara Schlegel, celui d'un important manque de moyens.
Oui, les effectifs devraient augmenter de 40% si on voulait que le service des urgences de Lariboisière réponde aux recommandations professionnelles. Autrement dit, passer de 23,5 personnels soignants à 32,5, reconnaît la mission, ou au moins embaucher 5 personnes pour que cet hôpital se situe dans la moyenne française. Ce service-là est donc en sous-effectif chronique et il souffre en plus de la proximité de la gare de Lyon, des personnes précaires ou toxicomanes qui sont soignés à proximité dans un centre de désintoxication s'installent souvent la nuit sur les fauteuils, voire les brancards des urgences. À Lariboisière, le service reçoit aussi à partir d'une certaine heure les patients en hospitalisation de courte durée, car les locaux sont trop éloignés dans l'établissement pour que la nuit un médecin puisse y accéder facilement. Enfin, la salle d'attente accueille aussi des malades des urgences ORL de toute l'Île-de-France, située elle aussi à Lariboisière et que la mission propose d'installer ailleurs très rapidement. En ce qui concerne maintenant le drame de la nuit du 17 décembre. L'identification de la patiente a été défaillante. Les pompiers avaient mal noté son nom et personne ne l'a vérifié. À son entrée, elle a bien été dirigée en 10 minutes vers le circuit court pour les cas graves, puis revue à 19h et 21h. Mais elle n'a été véritablement appelée qu'à minuit, 5 heures après son admission, et déclarée comme ayant fugué puisqu'elle ne répondait pas. Or, il aurait fallu la rappeler au moins 3 fois à 20 minutes d'intervalle et vérifier les bracelets d'identification de chaque malade du circuit court. Et entre 21h et minuit, une infirmière aurait dû vérifier l'état des patients en salle d'attente au moins 2 fois, ce qui n'a pas été fait vu le manque d'effectifs.
La famille de la patiente morte le 17 décembre a porté plainte pour homicide volontaire et non-assistance à personne en danger. La France redoute la peste porcine. Après la confirmation de 2 cas en Belgique, le ministère de l'Agriculture annonce des mesures préventives pour limiter le risque d'une contamination. Une zone blanche à très haut risque est mise en place dans un rayon de quelques kilomètres autour des cas belges. Tous les sangliers présents autour de la frontière belge devront donc être abattus dans les prochaines semaines. Le ton monte entre la Turquie et les États-Unis. Dans un tweet, Donald Trump menaçait la nuit dernière de dévaster économiquement la Turquie si elle attaquait les Kurdes après le retrait des soldats américains de Syrie. Ankara réagit aujourd'hui. La Turquie dit ne pas être intimidée par la mise en garde de Washington. Mais une autre idée évoquée dans le tweet du président américain, c'est celle d'une zone de sécurité dans la région. Et là, la Turquie ne verrait pas d'un mauvais œil la mise en place d'une telle zone. Précision d'Alexandre Billette à Istanbul.
Une menace doublée d'une ouverture, c'est ainsi qu'on aperçut en Turquie le tweet de Donald Trump. D'abord une menace que le palais présidentiel a dénoncée en évoquant une erreur magistrale de confondre les Kurdes et les milices des YPG, selon le porte-parole de Recep Tayyip Erdogan. La Turquie va lutter contre le terrorisme, quel qu'il soit, de l'État islamique ou des milices kurdes, a dit un autre responsable. Nous ne sommes pas intimidés par ces menaces, a dit encore le chef de la diplomatie turque. En revanche, l'évocation, plutôt floue, il faut le dire, dans ce tweet de Donald Trump, d'une zone de sécurité de 30 km, rejoint les intentions d'Ankara, qui veut au minimum une zone tampon le long de sa frontière pour éviter tout contact direct avec les milices kurdes. Le président américain qui a donc soufflé le chaud et le froid, mais ces menaces économiques ne vont pas améliorer la situation déjà tendue ces derniers jours entre les deux pays. Alors que justement cette semaine, une délégation américaine est attendue à Ankara pour poursuivre les discussions sur la coordination lors du retrait des troupes américaines de Syrie.
Dernière tentative pour Theresa May. Une fois encore, la première ministre britannique tente de convaincre le Parlement d'approuver l'accord de Brexit sur lequel elle s'est entendue avec l'Union européenne. Le processus est suspendu en vote de la Chambre des communes demain soir. Argument ultime, le gouvernement britannique a publié aujourd'hui une lettre de l'Union européenne contenant des assurances sur l'accord. Quentin Dickinson, vous qui suivez ce dossier depuis Bruxelles, est-ce que cette lettre est vraiment de nature à rassurer les députés outre-Manche ?
Eh bien, cette missive, rédigée en anglais et longue de 4 pages et demie, écrit petit, répond à la lettre de Theresa May qui réclame des garanties sur un point bien précis. C'est celui du mécanisme destiné à empêcher le retour d'une ligne de démarcation physique entre les deux Irlandes qui, dès le Brexit, se trouveront de part et d'autre de la nouvelle frontière extérieure de l'Union européenne. La préoccupation de nombre d'élus brexiteurs, c'est que le maintien temporaire de l'Irlande du Nord, province britannique, dans le giron de la réglementation européenne, en attendant de mettre au point un aujourd'hui toujours hypothétique système de zones de libre-échange euro-britannique, que ce provisoire, donc, par glissements successifs, devienne permanent et, en quelque sorte, dépouille le Brexit de sa victoire. La lettre est cosignée par le président du Conseil européen, Donald Tusk, et par celui de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Après une introduction commune, chacun de ces deux personnages a droit à ses paragraphes individuels. Alors, Madame May y retrouvera-t-elle ce qu'elle cherche ? Réponse, non. S'il s'agit de fixer par écrit une date butoir, au-delà de laquelle ce mécanisme disparaîtrait, même en l'absence de tout accord sur les futures relations définitives entre Londres et l'UE. Non, encore, s'il s'agit de rouvrir la négociation péniblement bouclée par l'accord qui sera sans doute rejeté demain soir. Non, toujours, s'il s'agit de laisser tomber le gouvernement de Dublin, très naturellement inquiet à la perspective du chaos économique et du retour à la guerre civile. Mais ces choses-là sont dites avec un emballage en sucre, et l'important, c'est que Mme May puisse brandir cette lettre aux communes en expliquant qu'elle négocie ce qui est faux et qu'elle oblige les Européens à lui répondre ce qui est vrai.
Tim Dickinson, en direct de Bruxelles. Après 40 ans de cavale, Cesare Battisti est de retour en Italie. Expulsé hier de Bolivie, l'ancien activiste d'extrême-gauche doit purger sa peine de réclusion à perpétuité dans une prison de Sardaigne. Il a aujourd'hui 64 ans. Cesare Battisti avait été condamné par contumace pour 4 assassinats commis durant les années de plomb. Son arrestation a été unanimement saluée en Italie, à droite comme à gauche, en particulier parce qu'il clame son innocence et n'a jamais exprimé de remords. En France, où il s'était réfugié, Cesare Battisti avait reçu le soutien de personnalité lorsque les autorités avaient décidé de l'arrêter pour l'extrader en 2004. Mais 15 ans plus tard, ces soutiens sont silencieux, note l'historien et sociologue Marc Lazare, spécialiste des gauches et de la vie politique italienne.
Les gens se font plus discrets, d'abord parce que Cesare Battisti les a peut-être un peu déçus après son évasion au Brésil et qu'il y a eu un certain nombre de ses déclarations qui n'ont pas beaucoup plu. Et puis aussi pour une autre raison, c'est que je crois que la recherche historique a fait d'énormes progrès sur cette période des années de plomb. Et que maintenant, je crois qu'un certain nombre de personnes se sont rendues compte que la situation était plus complexe que ce qu'ils pensaient. Beaucoup de Français considéraient que quasiment l'Italie des années 70 était une dictature, qu'il y avait une guerre civile en Italie, et donc qu'on pouvait comprendre ceux qui avaient pris les armes. Autant d'interprétations totalement erronées, telles que ça a été d'ailleurs démontré par les travaux historiques depuis ces dernières années. Et puis il y a une troisième raison, c'est que la France a été frappée malheureusement par le terrorisme, et que du coup le regard sur ceux qui ont participé en Italie au terrorisme a rétrospectivement changé.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette affaire Battisti, des relations entre la France et l'Italie ?
Je crois qu'elle dit deux choses. D'abord, il y a eu beaucoup d'incompréhension en France et en Italie sur cette affaire Battisti et au-delà de ça sur les années de plomb. Et puis, il y a une deuxième question qui va compliquer les relations franco-italiennes, c'est qu'actuellement, nous vivons la crise politique la plus profonde des rapports entre Rome et Paris depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Et que ce nouveau cas va relancer sans doute les controverses entre Rome et Paris. D'ailleurs, Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, a dit qu'il allait adresser au président Emmanuel Macron une nouvelle liste de personnalités italiennes qui ont participé à la lutte armée, qui sont toujours sur notre sol. Donc on va avoir de nouveau une étape sans doute un peu de crise et de tension entre la France et l'Italie, entre l'Italie et la France.
Marc Lazare, professeur des universités en histoire et sociologie politique à Sciences Po, il répondait à Thibaut Cavaillès. Demain mardi, le temps sera calme sur une grande partie du pays, mais la journée débutera souvent sous de nombreux nuages bas, parfois doublés de brouillard. De belles éclaircies se développeront l'après-midi. Les températures minimales seront à nouveau en baisse, entre 0 et 9 degrés en général, avec de petites gelées locales. Les maximales atteindront 4 à 11 degrés, jusqu'à 16 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.